Voilà, nous continuons l'étude sur Moïse. Ce ne sont pas des études complètes, mais c'est des études orientées sur certains épisodes de la vie des héros de la foi qui nous montrent parfois la relation avec Christ. C'est là qu'on les appelle les types de Christ. Ou juste des épisodes qui nous montrent les exemples à suivre en matière de foi, parce que nous avons le même parcours. Au fait, c'est ce que Hébreux 11 veut nous faire comprendre. À la fin, vous savez, avant, il n'y avait pas de chapitre, mais dans Hébreux 12, nous considérons que c'est le même texte qui continue de Hébreux 11. Et dans Hébreux 12, c'est dit que, avec un si grand nombre de témoins, des gens, on dit même une nuée, donc un très grand nombre de gens qui nous ont précédés, qui avaient les mêmes objectifs. Ils étaient des serviteurs de Dieu et ils conduisaient le troupeau, ils défendaient l'honneur de Dieu. Donc bref, ils avaient les mêmes missions que nous. Alors on veut se servir d'eux pour que ce soit pour nous des exemples pour le travail à venir. Et si nous regardons à leur vie, beaucoup de choses qui nous arrivent, nous trouverions ça normal et surtout, nous les imiterons dans la façon dont ils ont fait pour résoudre ces problèmes-là. Et souvent, nous l'avons dit, c'est que beaucoup pensent toujours que ceux qui vivent, ils sont peut-être les premiers ou les seuls à vivre cela, alors qu'il y a des gens avant nous qui ont vécu ces choses, mais qui ont été, comme Apocalypse nous dit au chapitre 2, qui ont été des vainqueurs. Ils ont vaincu. C'est pourquoi leur nom maintenant figure sur les héros, sur la liste des héros de la foi. Et c'est ce que nous voulons imiter. Et lorsque nous lisons ces textes, nous devons penser à nous-mêmes, comprendre comment nous devions marcher avec Dieu si nous voulons aller jusqu'au bout, comme ses bien-aimés. Donc on en était à l'épisode de la transgression des enfants d'Israël en confectionnant un veau d'or et en adorant ce veau-là comme étant l'Éternel. Et on avait parlé de la réaction de Moïse qui était extraordinaire. C'est que Moïse a plaider avec Dieu, conformément à Ésaïe 43, 26. Il a parlé comme si c'était lui qui était beaucoup plus soucieux de ce peuple que Dieu lui-même. On a vu donc la qualité d'intercesseur de Moïse, d'intermédiaire. Donc on ne peut pas être intercesseur sans être capable de donner sa vie pour les gens pour qui on prie. Donc on prie pour le salut des gens, mais il faut qu'on soit capable de donner notre vie pour ces gens-là. Et donc Moïse a parlé comme si il devenait pratiquement adversaire de Dieu en faveur de son peuple. Or, en réalité, c'était le peuple de Dieu. Mais Moïse avait tellement fait sienne la cause de Dieu qu'il parlait comme si lui-même aimait le peuple plus que Dieu. Parce que tellement l'amour de Dieu pour le peuple. Lui-même, Moïse, a pris le même amour pour son peuple. Et c'est ainsi qu'il a dit clairement à Dieu, nous allons relire. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir? C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, « Je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais. » Et il est écrit, l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. On continue verset 15. Moïse retourna et descendit de la montagne. Les deux tables du témoignage dans sa main, les tables étaient écrites de deux côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris. Et il dit à Moïse, « Il y a un cri de guerre dans le camp. » Moïse répondit, « Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. » Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Moïse dit à Aaron, « Que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché ?» Aaron répondit, « Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, « Fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent, et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. » Moïse vit que le peuple était livré au désordre, et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, « À moi ceux qui sont pour l'Éternel !» Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. » Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Moïse dit, « Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions après une lecture aussi dure. Voilà. Donc, Moïse, quand on a lu au verset 11, a manifesté beaucoup d'amour pour le peuple de Dieu, au point qu'il a intercédé afin que Dieu ne le détruise pas. Mais là, nous voyons qu'il manifeste de la sévérité, de la colère envers ce même peuple et en disant aux gens qui sont vraiment de Dieu, il dit, venez à moi. Il dit, donc que ceux qui sont de l'Éternel viennent se joindre à moi, que chacun choisisse son camp. Et quand ceux de l'Éternel ont choisi le camp de Moïse, il dit, bon, maintenant, il faut qu'on purifie le peuple. Donc tuez tout ce que vous considérez qui ont été, voilà, instigateurs, bon, ce n'est pas dit clairement, instigateurs ou bien des gens qui ont pris part d'une manière considérable, probablement les meneurs de l'idolâtrie, du péché qui venait d'être commis, et bien que chacun tue s'il faut son frère. Et Moïse, donc, est l'image. Donc là, il a pris la position liée à la colère de Dieu. Donc d'un côté, il a pris une position liée à l'amour de Dieu, il a intercédé pour le peuple. Là, il prend la position liée à la colère de Dieu et il juge le peuple. Et c'est ce qui se passera aussi avec Christ à sa deuxième venue. Mais il jugera et jugera. Là, quand il vient en première... Quand il est venu la première fois, il n'est pas venu pour condamner, il est venu pour sauver. Mais quand il viendra la deuxième fois, ça sera comme juge. Donc c'est lui qui jugera avec colère parce que, un, il connaît l'homme. Et deux, il a payé, c'est lui qui a payé sa vie pour le salut de l'homme. Et lui, en payant de sa vie, il a apaisé la colère de Dieu. Et donc cette colère maintenant se reporte sur lui-même. Donc Jésus viendra dans une vraie colère, juger l'humanité. Et là, Moïse joue justement ce rôle de type de Christ qui d'un côté intercède pour le peuple, de l'autre côté, il sera aussi le juge, parce que connaissant bien ce que Dieu a fait pour le peuple, et connaissant ce que l'homme, Moïse était aussi un humain, donc et il pouvait être un bon juge, puisque lui-même, il était homme, il savait ce que l'homme pouvait exprimer, mais en même temps, c'était un vrai serviteur de Dieu, il connaissait aussi la pensée de Dieu, et il connaissait la colère que Dieu avait en lui par rapport à l'acte qui venait d'être commis. Et c'est ce qui explique cela. Et on comprend bien aimé que la Bible est la même. Donc les commandements de Jésus ne sont pas différents des commandements de l'Ancien Testament. Quand Jésus dit « Celui qui veut me suivre et qui ne déteste pas son frère, sa mère, ses frères, ses femmes, son mari, tout ça, il ne peut pas me suivre. » C'est ce que Moïse est en train de dire quand il dit consacrez-vous, verset 29, aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Donc, en quelque sorte, donc, s'il faut, pour être en accord avec Dieu, sacrifier son frère et son fils, ainsi de suite, mais il faut le faire. Et ce commandement n'est pas différent de ce que Jésus lui-même donne. Mais qui fait que beaucoup aujourd'hui font des compromis parce qu'ils veulent plaire à un ami, ou à un frère, à un fils, ou à... Jésus ne nous autorise, Dieu ne nous autorise pas cela. Et Moïse nous montre cela, et Christ a donné le même commandement et qu'on retrouve ici. Il dit, ben, ceux qui sont de Dieu doivent aller en arriver jusque-là, s'ils veulent, si c'est la condition pour rester en Dieu, ils doivent en arriver jusqu'à cela. Et on continue verset 30. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit. Voici, mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau fabriqué par Aaron. Oui, il y a question ?
Là, en fait, on voit que dans ceux qui ont choisi de suivre l'Éternel, il n'y a que les Lévites, en fait. Il n'y a que cette tribu qui...
Non, je considère que c'est les Lévites qui sont venus en premier.
D'accord, mais pas uniquement oui, eux. Voilà, parce que là, j'ai l'impression
qu'il y a que... Je crois que c'est la tribu de Lévi qui est venue en premier. Quoi.
D'accord.
Bon, ce sont les frères directs de Moïse aussi. Parce que Moïse était de cette tribu-là.
Oui, et dans l'épisode avec l'épée, tout ça... Moi, ça me rappelle aussi quand Jésus a dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée dans une famille.
Voilà, c'est vrai, c'est vrai. Donc, on voit qu'il n'y a rien de nouveau, comme Ecclésiaste dit, rien de nouveau. Tout est ancien. Et ce que Jésus dit, ça a été déjà dit par Moïse. Et là, ça s'accomplit. C'est un appel à l'amour pour la vérité. L'amour pour la vérité peut nous amener à ces extrémités-là. Nous, aujourd'hui, on ne va pas tuer quelqu'un. Mais on peut, voilà, s'il le faut, se séparer avec certaines personnes à cause de la vérité ou prendre des positions contraires à cause de la vérité d'une manière extrême, parce que là, c'est vraiment extrême. Donc, on voit que il dit « consacrez-vous ». Donc, consacrer, c'est se mettre à part pour Dieu. Et s'il le faut, tuer votre frère ou fils, eh bien, consacrez-vous à l'Éternel. C'est cela. Donc, lié au contexte de l'époque. OK. Donc, nous continuons. Et Exode 33. L'Éternel dit à Moïse, « Va par d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, « Je le donnerai à ta postérité. » J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hétiens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation, et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je ferai. Je te ferai. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Donc, les ornements sacrés, ça symbolisait la mise à part par rapport à Dieu. Aujourd'hui, nous, on ne nous appelle pas à mettre des vêtements spéciaux, mais à avoir un cœur mis à part pour Dieu, un cœur qui vit que pour le Seigneur. Et là, Dieu dit à Moïse, écoute, d'accord, je vous ai pardonné, mais je ne vais plus marcher avec vous. Parce que marcher avec vous, ça va m'amener à vous frapper, à vous faire du mal, parce que vous êtes un peuple difficile, toujours rebelle à ma parole. Alors, aller avec vous, ça m'amènera à vous consumer. Donc, je préfère vous donner la terre promise, puisque Moïse a eu Dieu en rappelant au Seigneur ce qu'il avait promis à Abraham, Isaac et Jacob. Donc, Dieu bloqué et accepte donc de donner cette terre-là, de dire, bon, ok, je vais vous donner la terre promise comme prévu, mais moi, je ne collabore plus avec vous. Parce que la collaboration avec vous va m'amener à vous détruire. Donc, je m'arrête là, mais allez prendre possession de ce que j'ai promis à vos pères. Nous continuons la lecture. Moïse dit à l'Éternel, verset 12, on saute, on va au verset 12. « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître que qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple ? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre ?» L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Amen. » Mais là, ça prouve même que Moïse a vraiment trouvé grâce aux yeux de Dieu. Dieu n'a pas fait un mauvais choix. Parce que Dieu propose à Moïse d'être avec lui, Moïse seulement, mais pas avec les autres. Moïse dit, mais non, les autres, c'est aussi ton peuple quand même. Moi, je vois mal que tu sois seulement avec moi. Moi, j'accompagne un peuple, mais tu n'es pas avec nous tous ensemble. Non. Dans ce cas, je préfère bon, qu'on reste ici. Mais je vois mal qu'on fonctionne sans toi. Et juste que moi, j'ai grâce à tes yeux. Ça ne suffit pas parce que c'est quand même ton peuple. Et Dieu dit à Moïse, bon, là, vous savez, comme Dieu était épaté par Abraham, quand il a dit à Abraham de sacrifier Isaac, au moment où il allait mettre le poignard, le couteau sur son fils, Dieu dit à Abraham, maintenant je comprends vraiment que tu m'aimes. Et je crois que devant des réponses comme ça, Dieu lui-même est épaté. Il est épaté par le Saint-Esprit qui donne ce genre de réponses. Et Dieu est étonné par lui-même. Parce que ses œuvres sont grandes et merveilleuses. Et Dieu lui-même sait apprécier ce qui est grand et merveilleux. Ce n'est pas de l'orgueil. Parce que, voilà, il n'a pas à se comparer avec quelqu'un. Il est impressionné par lui-même encore. Voilà. Et C'est l'Esprit de Dieu qui, attaché à Moïse, qui fait fonctionner Moïse ainsi. Et Dieu lui-même est impressionné par une telle détermination à voir le plan de Dieu s'accomplir. Vous savez, c'était ça la détermination de Moïse. Moïse regardait à l'honneur de Dieu. Quand il dit à Dieu, mais dans ce cas-là, ne nous laisse pas partir, Moïse réfléchit, il dit, mais si je pars, moi tout seul j'ai Dieu, mais Dieu n'est pas avec nous dans l'ensemble, rien ne se passera là-bas comme Dieu le veut. Peut-être moi, ma vie sera une vie heureuse, mais un jour je mourrai et tout ce peuple va vivre comment? C'est quand même le peuple de Dieu. Donc Moïse avait le souci du peuple de Dieu. Et deuxième chose, Moïse avait le souci de fonctionner avec Dieu. Il voulait que Dieu soit là. Quand nous allons parler d'un autre grand type de Christ, David, nous allons lire un verset qui dit presque la même chose que nous venons de lire. Et lui-même, la réalité, vous savez, ce qui est dit, c'est que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Le corps, c'est Christ. C'est comme quand nous marchons, nous avons une ombre. Et en fonction de notre ombre, quelqu'un peut savoir que c'est nous, plus ou moins, pas avec beaucoup de précision. Et on dit que l'Ancien Testament, c'était l'ombre. Mais c'était l'ombre de qui? L'ombre de Jésus. Et Jésus, c'est lui-même la réalité. Et qu'est-ce que Jésus dit dans Jean 4, 34? Jean 4, 34, qu'est-ce que Jésus dit? Quand on lui propose, c'est un verset qu'il faut connaître. On lui propose de manger par les disciples. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. C'est d'accomplir ses desseins. C'est ma nourriture, en quelque sorte, c'est mon Père. Et Moïse dit à Dieu, si tu n'es pas là, même si tu nous donnes la terre promise, avec toutes les richesses liées à ça, ça ne me fait rien du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que toi, tu sois là. Voilà. C'est ça qui m'intéresse. Et quand nous parlerons de David, nous serons étonnés de voir que c'est la même pensée. C'est-à-dire que tous ces gens-là avaient la même pensée. Ce qui les intéressait, c'était Dieu. Être avec Dieu. C'est pourquoi on les appelait hommes de Dieu. Parce qu'ils étaient différents d'un homme normal qui est beaucoup plus intéressé par une assurance personnelle liée aux possessions, liées au pouvoir humain et liées à l'intelligence humaine. Les hommes de Dieu, comme on les appelle là, hommes de Dieu, ils étaient intéressés exclusivement que par Dieu. Ils étaient différents des humains normaux. C'est cela. C'est pourquoi on les appelait hommes de Dieu. Donc, ils avaient une relation avec Dieu spéciale, alors que les humains normaux sont naturellement intéressés par l'argent, par les possessions matérielles, par les jugements humains, où on m'a tapé à gauche, je rends à droite. Voilà. Mais les hommes qu'on appelle les hommes de Dieu avaient un fonctionnement lié qu'à Dieu seul. Aujourd'hui, tout chrétien est homme et femme de Dieu. Donc, normalement, nous devrions avoir ce comportement-là où tout vient de Dieu, c'est Dieu qui pilote, et non pas nos raisonnements et non pas nos objectifs humains et charnels. Et Moïse a dit à Dieu, même si tu nous donnais la terre promise, si toi tu n'es pas là, cela est vain. Ce que moi je veux, c'est que toi tu sois avec nous. C'est pourquoi Dieu lui dit, écoute, verset 17, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Un jour nous expliquerons qu'est-ce que ça veut dire que Dieu te connaisse par ton nom. Voilà. Mais Dieu lui dit, je te connais par ton nom. On est intime. Je sais qui tu es. Voilà. Et pour cela, je cède. Je cède. Je vais quand même être avec vous comme tu l'as demandé. Et c'est ça l'intercesseur. L'intercesseur arrive à toucher le cœur de Dieu pour que Dieu soit apaisé dans sa colère. Et c'est ce que Moïse faisait. C'est ça son rôle. Un de ses rôles très importants. Puisque Moïse a eu plusieurs rôles importants, comme Christ pratiquement à 100%, le rôle de berger de son peuple, le rôle de prophète de son peuple, parce que c'est Moïse qui a amené la parole de Dieu, la première partie, la loi. Et Moïse a cet effet, n'est comparable qu'à Jésus, il n'est comparable à personne d'autre. Le seul homme sur terre qu'on peut comparer à Moïse, c'est Jésus, en matière de parole, parce qu'ils sont les seuls à porter la parole de Dieu. Les autres, comme nous et autres, nous ne faisons que répéter ce que les deux-là ont dit. Que ce soit Élisée, Élie et tous ces autres-là ne font que répéter les deux paroles, que la parole de Moïse ou les apôtres, la parole de Jésus-Christ. Mais il n'y a que deux qui ont reçu directement de Dieu la révélation, c'est Moïse et Jésus. Et Moïse a en plus de cela le rôle de sacrificateur en quelque sorte, parce qu'il donne de sa vie toujours, de sa propre vie face à Dieu dans l'intercession pour dire à Dieu, ben, dans ce cas-là, si tu ne veux plus du peuple, moi aussi, je ne veux plus être avec toi. Voilà. Donc, je me sacrifie pour le peuple. Oui.
Justement, moi j'ai une question à poser par rapport à quand Jésus dit que la loi est venue par Moïse et que la grâce est la... Enfin, quand la parole dit que la grâce et la vérité est venue par Christ. Parce que là, au 17, c'est vrai que c'est Dieu qui accorde sa faveur, enfin sa grâce, que à Moïse, mais pas au peuple.
Ah si ? Donc il dit qu'il va faire maintenant ce que Moïse lui demande.
Oui, mais est-ce
donc
que...
Moïse demandait la faveur pour tout le peuple.
Pour tout le peuple.
Oui, oui.
Mais c'est la grâce là qu'on dit ou c'est quoi cette
non,
faveur-là ?
Non, c'est là que la réponse est « je ferai ce que tu me demandes ».
Oui, mais après, un peu plus haut, quand le Seigneur... au 16, à quoi donc reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur, moi et ton peuple ? Mais là, il parle de la faveur, la grâce là, que l'on dit que c'est pas...
De ah, cette grâce, la grâce et la vérité voilà. Sont... Ah non, là, non, c'est pas cette grâce-là.
Okay.
C'est la grâce qui fait que nous sommes sauvés par grâce.
Voilà, d'accord.
C'est cette théorie-là,
d'accord.
Cette révélation-là, c'est Jésus qui la porte, que nous sommes sauvés par grâce. Moïse a apporté la révélation que nous pouvions être sauvés par la loi. Jésus apporte la certitude que nous sommes sauvés par grâce. Quoique la révélation de la grâce était en pointillé dans... le premier testament, puisqu'on explique qu'Abraham a été reconnu juste par la foi. Donc il y avait déjà, même quand là on lit, on dit que Dieu, Moïse a trouvé grâce auprès de Dieu. Et Noé, pareil, on a dit Noé trouva grâce. Il y avait en pointillé déjà la grâce dans l'Ancien Testament, mais Jésus amène cette logique-là clairement. Voilà, la grâce et la vérité. La vérité pour dire que Jésus amène toute l'explication, alors que Moïse n'avait amené qu'une partie. Donc, ce n'est pas à dire que ce que Moïse avait amené n'était pas la vérité, mais c'est incomplet. Voilà.
Donc là, dans l'Ancien Testament, c'était accordé juste à certaines personnes. Parce que là, ce n'est pas...
Non, il y avait un système, voilà, il y avait un système établi tel que pour être sauvé, il fallait accomplir la loi.
De Noé, de Moïse, ces hommes-là, enfin, c'est parce qu'ils sont appelés de Dieu, parce que bon, c'est Dieu qui leur a... Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que c'est lié à l'appel à...
Non, c'est pas une grâce là liée au salut éternel. Quoi. On ne le dit pas clairement. C'est une grâce liée à une faveur. Dieu te fait à une faveur. Il te favorise. Voilà. Il te favorise parce que tu as plu à son cœur et c'est lui qui te favorise. Mais ce n'est pas la théorie claire comme quoi tout humain ne peut être sauvé que par grâce. Voilà, ça c'est Jésus qui vient exprimer ça clairement. Voilà. Donc, est-ce que Moïse, en disant au verset 12, quand il dit « Efface-moi de ton livre », on va relire. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, tu me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Fais-moi connaître tes voies. Considère cette nation et ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Ah bon? Pourtant, on vient de lire l'endroit où il dit que... Ah, c'est 32, ah, ok, d'accord. Je reviens sur ça quand il dit, dans ce cas, efface-moi. Voilà, c'est 32. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Mais est-ce que ça, c'est de l'orgueil, un courage de fumeur de cannabis, ou bien c'est... Voilà, comment Moïse peut dire, dans ce cas, efface-moi de ton livre. Qu'est-ce qu'il veut dire vraiment par ça, quoi? Voilà, c'est ça. Comme si on dit, bon, Seigneur, bon, exauce-moi, sinon efface-moi de ton livre. Oui. Non, ce n'est pas allumé.
Je pense qu'en fait, il connaît vraiment Dieu, quoi. Donc il sait que Dieu l'aime vraiment et qu'il a toujours été droit à lui et que Dieu, justement, va s'aider. Il est quasi sûr de lui, quoi. Il sait comment Dieu est amour.
Oui, mais est-ce que ce n'est pas carrément du chantage ou... Enfin, je ne sais pas. Comment il peut... Qu'est-ce qu'il veut dire par quelle est la pensée totale? Voilà, parce que, soyons quand même, si on doit rester terre à terre, il a exagéré en disant, sinon efface-moi de ton livre. Voilà.
Est-ce que ce n'est pas un cri du cœur, c'est-à-dire, moi je reste avec le peuple, si tu effaces le peuple de la terre, tu m'effaces aussi, parce que moi je fais partie du peuple, je suis avec eux, c'est comme s'il faisait qu'un, le peuple et Moïse. Donc lui, il porte la responsabilité du peuple. Si le peuple est éliminé, ben lui, il doit être éliminé aussi.
Voilà, donc ça c'est très très important. C'est que Moïse, donc, il se dit, que tu élimines le peuple, ça, en quelque sorte, tu m'élimines moi-même. Tu ne peux pas dire, tu ne sauves pas le peuple, tu ne sauves que moi. Alors que moi, je considère que mon sort est lié à ce peuple. Éliminer ce peuple, en réalité, c'est m'éliminer moi-même. Donc quand Moïse dit, mais c'est, sinon efface-moi, donc il veut dire que c'est la même, ça revient au même. C'est-à-dire que tu effaces le peuple, que tu mettes de côté le peuple, ça revient au fait que tu le fais à moi-même aussi, quoi. Alors ça revient au fait que tu le fais à moi-même. Et c'est ça, quoi. Ça montre l'unité que Moïse avait dans le cœur avec... le peuple, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les desseins de Dieu. Moïse était lié au plan de Dieu. Et en quelque sorte, il veut dire aussi par là que si tu ne sauves pas le peuple, ça ne me sert à rien aussi d'être sauvé. Donc je perds le goût même de mon salut à moi. Parce que dans mon salut, il y a aussi le fait que le peuple soit sauvé, quoi. Donc j'ai le goût du salut avec le salut du peuple. Ce n'est pas un salut égoïste personnel. Et c'est des états d'âme qu'on retrouve chez des gens qui aiment le salut des âmes. Il y a des gens... Voilà, je vous ai raconté, par exemple, l'histoire de Jackie Pullinger. Elle était partie à Hong Kong, dans la cité interdite. Comment elle a fait un travail là-bas avec les mafieux, les fumeurs d'opium. Et un jour, à un moment donné, elle suivait un mafieux en prison carrément pour lui apporter l'évangile. Et puis, le monsieur, jusqu'à la dernière minute, a refusé. 2 ans après, elle rencontre cet homme-là qui était devenu pasteur. Elle dit, mais bon, qu'est-ce qui s'est passé? Entre-temps, tu es devenu pasteur, alors que ce jour-là, tu avais refusé catégoriquement de te convertir. Le monsieur lui dit, le jour où tu m'as parlé la dernière fois, quand j'ai refusé, j'ai vu qu'après, tu étais devenu triste. Voilà. C'est ça qui m'a déstabilisé. Pourquoi tu es devenu triste? C'est-à-dire que Jackie elle-même, elle était sauvée. Mais voir l'autre non sauvée, ça l'a dérangée elle-même, au point qu'elle perdait la joie de son propre salut. Puisqu'on est censé, en tant que chrétien, être joyeux puisqu'on est sauvé à tout moment. Mais le manque de salut de l'autre lui enlevait la joie de son propre salut. Donc Moïse, en quelque sorte, veut dire à Dieu, mais si tu ne sauves pas le peuple, moi-même, je ne me sens plus comme vraiment sauvé. Et c'est ça le cœur d'un évangéliste. Il a l'impression que si les autres ne sont pas sauvés, lui-même est mort. C'est comme si quand il prie pour réclamer le salut des autres, c'est comme s'il prie pour son propre salut. Il faut en arriver à ce niveau-là, nous tous chrétiens, dans l'amour pour les âmes. C'est-à-dire que tu veux tellement que Dieu sauve les autres que c'est devenu comparable à ton propre salut. Et par conséquent, ça entraîne des sacrifices grands, mais qui pour toi ne sont plus grands. Parce que tu es tellement dans l'amour pour les autres que les sacrifices que tu fais pour leur salut, pour certains, ça paraît immense. Pour toi, ce n'est pas immense, parce que l'amour que tu as pour les autres est très fort. C'est ce qui a conduit, d'ailleurs, ce que je dis là, je me rends compte que c'est écrit déjà, d'ailleurs. Dans Jean 13, au verset 1er, c'est écrit que Jésus-Christ, avant de quitter ce monde, il aima ses frères au maximum. Donc son amour grand pour l'humanité l'a conduit à faire un sacrifice immense, mais sans que ça soit avec regret ou bien, voilà. Pour lui, c'était l'issue inévitable. Donc il fallait qu'il se sacrifie parce que son amour était grand. Aujourd'hui, souvent, quand je le dis, quand on dit aux gens, prions, intercédons, travaillons pour l'œuvre de Dieu, on fait des concerts d'évangélisation. Bon, il y en a, qui se contentent, le dimanche, je viens, je prends ma parole. Mais quand on veut faire du travail pour sauver les âmes, il n'y a personne, il y a peu de gens, que ce soit intercession, distribution des tracts. Les gens se contentent de leur vie personnelle, de leur salut personnel. Donc je viens, j'écoute la parole, ça m'édifie moi-même. Je viens, je prie pour ma famille, ça m'édifie moi-même. Mais quand il s'agit de se serrer les coudes pour sauver d'autres personnes, que peu de gens. Parce que cet amour-là que Moïse manifeste là, peu de gens l'ont pour les autres, pour le peuple de Dieu, pour le plan de Dieu. Il n'y a pas que le peuple de Dieu, il y a le plan de Dieu. Il y a aussi l'honneur de Dieu. Moi, je me dis toujours, mais après tout, moi, j'ai souvent prié comme ça à dire à Dieu. J'ai dit, mais après tout, Dieu, c'est toi qui as créé les humains. C'est logique que tout humain puisse te louer. Ce n'est que justice. Ce n'est même pas quelque chose qu'on peut discuter. Alors fais en sorte qu'ils soient sauvés, qu'ils te connaissent, quoi. Parce que pour moi, c'est tellement évident, c'est même bête. C'est Dieu qui a créé chaque homme. Chaque homme doit le louer et le servir. Mais c'est logique. Mais bien-aimé, est-ce que vous trouvez une explication à donner encore là? Quand on achète une chemise ou une voiture, c'est à nous. Comment l'homme peut dire qu'il n'est plus à Dieu? Rien qu'à y penser, bien aimé, déjà là, je suis mal, là. Alors pour moi, c'est ça la prière. Je dis, mais c'est pas normal que l'homme ne se tourne pas vers toi. C'est vraiment de la mauvaise foi, de la rébellion, de l'injustice. Et dit, Seigneur, envoie la puissance de ton esprit, que les gens comprennent ça, quoi. C'est cela, bien aimé, nous devons aller plus loin que ça. Venir juste prendre ta parole pour t'être édifié que toi, mais non, mais il faut penser aux autres. Il faut penser à l'honneur de Dieu. Il faut penser que c'est Dieu qui a tout fait après tout. Comment les choses ne peuvent pas tourner à ce qu'on l'adore? On le loue. Vous savez, je suis un homme comme tout le monde. Il y a des moments où je dis à Dieu, je suis indigne de te servir. Écoutez la réponse. Lui, il est digne d'être servi. D'accord, moi je suis un nul, je suis indigne de servir Dieu. Mais lui, il dit, lui, il est digne d'être servi. Bien-aimé. Il dit, mais toi, tu es indigne. Mais moi, je suis digne d'être servi. Je décide qui veut me servir. C'est moi qui décide. Voilà. Il n'a pas dit, non, tu es digne. Il dit que lui, il est digne d'être servi. Alors, bien-aimé, moi, je ne comprends pas comment un homme peut refuser Dieu. Donc, où ? C'est le diable ou l'orgueil est d'un niveau, je ne sais pas comment expliquer ça, je crois qu'on a déjà fait un débat là-dessus. Comment expliquer qu'un homme refuse Dieu? On ne peut pas expliquer ça. C'est vraiment contraire à la plus petite logique. C'est contraire parce que c'est Dieu qui nous a créés. C'est logique qu'on vive pour lui puisque c'est lui qui nous a créés. C'est logique. Vous savez combien des enfants... Aujourd'hui, il y a des enfants qui cherchent, on dit bien, il est né sous X. Naître sous X, ça veut dire que dès le départ, on a fait en sorte de cacher le nom de son père. Donc, dans les documents, il n'y a pas le nom de son père. Et l'enfant peut parfois 35, 40 ans. Qu'est-ce qu'il fait? Il emploie tous les moyens juridiques, tous les moyens financiers pour retrouver son père. Quelqu'un qui n'a pas vu, ça fait, qui n'a pas vu depuis 40, qui n'a jamais vu, puisque quand il est né sans le voir, sans le connaître. Parfois même la maman ne connaît pas c'est qui le papa. Mais l'enfant fait tout pour retrouver son papa. Alors comment un être humain peut rester comme ça sans chercher à retrouver son créateur? Alors je crois que ce qui nous manque, c'est l'amour pour Dieu, quoi. Le sens de l'honneur de Dieu. Si vraiment tu aimes Dieu, tu vas chercher que Dieu soit honoré. C'est pas normal. Voilà, donc alors je prie, je m'engage, je livre ma vie pour que la justice soit faite. Que celui qui a créé soit celui qui est honoré. Pas d'autres personnes. C'est cela, bien-aimé. Et Moïse dit, mais non, c'est pas normal. C'est ton peuple, c'est toi qui l'as sorti d'Égypte. C'est pas normal qu'après, il serve quelqu'un d'autre. Voilà. Alors moi, je ne vois pas comment moi je peux vivre avec l'idée que ce peuple-là va servir quelqu'un d'autre, sachant que tu m'as utilisé, moi. N'oublions pas que Dieu a utilisé Moïse pour sortir ce peuple. Non, sachant que tu m'as utilisé, moi, pour sortir ce peuple avec tant de miracles, tant de puissance. Et après, maintenant, tu veux changer. Moïse dit, non, non. Dans ce cas-là, moi, je ne vois même pas pourquoi je serais sauvé. Ça n'a aucun sens, mon salut, s'il n'y a pas le salut de son peuple, puisque ma vie est liée à tout cela. Amen. Voilà, question.
Bon, tu as répondu quasiment à tout. Mais moi, je me pose la question. Moi aussi, parfois, je me fais la réflexion. Je me dis, moi, je ne suis pas meilleur que les autres. Dieu, il m'a sauvé. En même temps, je me dis donc forcément qu'il va sauver tout le monde. Donc on prie, on intercède, tout ça. Mais en même temps, quand on lit ce que le peuple il a fait, moi je comprends que en fait, si pour le peuple de Dieu, il fallait Moïse, donc quelqu'un qui a la foi de Moïse, l'amour, enfin, il fallait être comme Moïse pour sauver tout le peuple de Dieu. Donc ça veut dire que, enfin, je sais pas comment t'expliquer. Le peuple de Dieu se retourne, rejette Dieu lui-même, quoi. Donc c'est grâce à Moïse que à chaque fois Dieu cède et Dieu au final emmène le peuple à la terre promise. Donc c'est comme nous aujourd'hui. Ça veut dire qu'on doit être comme Moïse, comme bon, oui, il faut qu'on soit comme Moïse, comme Jésus, pour sauver beaucoup de. Enfin, c'est juste. On a l'impression que c'est impossible, quoi.
Comment ça, c'est impossible? Moïse était un homme comme nous.
Oui, bah, pasteur, voilà. Bien sûr, tout ça. Mais moi, aujourd'hui, je me vois pas dire, Seigneur. Moi, je m'accroche au verset. Crois que tu seras sauvé, toi et ta famille. Moi, ma famille, pour moi, c'est pas que ma famille là, c'est tout le monde.
Oui, mais donc, tu te vois pas dire quoi? J'ai pas compris.
Non, mais enlève mon nom du livre. Je sais même pas.
Mais on a expliqué ce qu'il a voulu dire par là. On a expliqué que c'est une conséquence. Il considère que son salut n'existe plus sans le salut du peuple. Oui. Ce n'est pas. Il n'a pas voulu dire à exactement ce qui est écrit là. Dire. Je mets ça, voilà, si tu ne sauves pas, tu m'enlèves. Non, ce qu'il veut dire par là, c'est plus profond que ça. C'est-à-dire que mon salut est lié à celui du peuple.
Oui, mais c'est voilà. Pour ça. Donc là, je voulais dire qu'en fait, ce que lui, il dit, c'est est-ce que nous, enfin, est-ce que c'est lié seulement aux personnes qui sont, comme tu dis, les évangélistes, les personnes qui
non,
sont appelées à
sauver les âmes ?
Non, c'est
tout chrétien qui doit être comme ça. Je dis maintenant, l'évangéliste, c'est-à-dire c'est celui qui fait les preuves de quelqu'un qui veut sauver les âmes. Mais tout chrétien doit être comme ça.
Oui, je comprends, mais voilà. Plus ceux qui sont
non,
appelés à sauver les bergers, tout
non,
le monde
non,
n'est pas berger.
Non, il n'y a pas de plus. Tout chrétien doit être comme ça. Maintenant, il y en a qui ont déjà fait leurs preuves dans leur travail pour sauver les âmes. C'est pourquoi on les appelle évangélistes. Mais tout chrétien doit avoir la même passion pour Dieu. Tout ça naît parce que la femme qui a versé le parfum sur Jésus, mais c'était pas un évangéliste avec qui allait de gauche à droite évangéliser. Mais Jésus a dit que partout où on prêchera l'évangile, on parlera d'elle. Pourquoi? Parce que cette femme-là était très attachée au Seigneur au point que elle a compris qui était le Seigneur, elle a versé tout le parfum pour elle. Jésus était le créateur de l'univers, une goutte ne suffisait pas pour Jésus. Et ça, Jésus explique par là que cette conception-là de Jésus va faire que beaucoup de gens vont être sauvés. Donc, c'est-à-dire quand quelqu'un est attaché au Seigneur, la personne va produire, va être un canal pour le salut de beaucoup. Va être un canal pour le salut de beaucoup. Ce n'est pas obligé qu'on aille prêcher à gauche, à droite, mais notre cœur va devenir une source de salut pour beaucoup. On le verra peut-être qu'au ciel. Comme cet homme-là, cet homme qui a distribué en Australie pendant presque 20 ans, à la même rue, il distribuait les tracts d'évangélisation. Zéro conversion. Deux semaines avant sa mort, il reçoit la visite de quelqu'un qui lui dit « J'ai été sauvé par les tracts. Un jour, tu m'avais donné un tract. » Il y a 20 ans, et quand j'ai lu le tract, ça m'a conduit à chercher Dieu, à chercher une église, et j'ai été sauvé. Aujourd'hui, je sers Dieu à travers mon ministère. Il y a plus de 100 000 personnes qui se sont déjà converties. Voilà. Donc cet homme-là, à travers son entêtement à glorifier Dieu dans cette rue-là, malgré zéro conversion, ben, ce cœur-là de vouloir voir l'honneur de Dieu, parce que moi je comprends que de telles personnes ont compris l'essence de l'honneur de Dieu, de l'amour pour Dieu, et ça a ouvert des portes et beaucoup de milliers de personnes sont sauvées. Quoi. Donc c'est ça que Moïse avait ce cœur-là, de dire non, mais après tout, c'est le peuple de Dieu. Surtout que c'est lui qui a été utilisé pour sortir ce peuple-là d'Égypte. Il dit mais non, quand même, tu as fait trop d'efforts pour les sortir, pour abandonner en chemin, quoi. Voilà. Et quand tu dis que tu veux que t'occuper de moi, mais moi, ce que je veux, c'est que tu t'occupes de ce peuple. Si tu, en quelque sorte, si tu veux me satisfaire, sauve ce peuple. Voilà. Ça, c'est beau, hein? Donc, Moïse dit donc en quelque sorte à Dieu, c'est comme si tu veux me satisfaire, moi. En tout cas, si tu veux me satisfaire, dans ma satisfaction, il y a le salut de ce peuple. Sinon, il n'y a pas de satisfaction pour moi. Sinon, c'est comme si je ne suis pas sauvé, d'ailleurs. Si ce peuple-là n'est pas sauvé. C'est cela, quoi. Donc, il n'a pas voulu faire un chantage de donnant. Où tu sauves le peuple, où tu m'as... Non, en réalité, la profondeur, c'est cela. C'est que mon salut, dans mon salut, il y a aussi le salut du peuple. Voilà. C'est l'unité, l'amour pour le peuple, mais c'est aussi l'amour pour la gloire de Dieu. Dieu a commencé une œuvre. Si Dieu ne la finit pas, les gens vont se moquer de Dieu. Il a dit, mais finis ce que tu as commencé. Voilà, pleinement. Pas à moitié. Parce que Dieu proposait d'amener quand même le peuple à la terre promise, de finir ce qu'il a commencé, mais sans lui. Il dit, bon, je vais vous envoyer quand même, mais moi, je ne serai plus avec vous. Moïse dit, non, ce n'était pas ça le contrat. Il faut que tu ailles jusqu'au bout, que tu sois avec nous. Sinon, ce n'est pas ça ce que je veux. Moi, ce que je veux, que tu sois avec nous. Ce n'est pas le miel et le lait qui m'intéressent, mais c'est toi que tu sois là.
Oui, mais oui. Au final, Moïse, il n'y va pas, quoi.
Ah si ? Dieu dit au verset 17.
Non, mais à la fin, on sait que Moïse, il va
pas. On va y arriver, donc voilà. On n'y va pas à cause d'un péché. Non, mais lui, pas. Non, à la fin, mais le peuple va y aller. Mais lui n'entre pas dans la terre promise.
Parce que moi, quand j'ai vu ça, moi, j'étais fâchée, là. Moi, j'étais fâchée, quoi. Non, oui. Mais là, j'ai trouvé ça injuste, quoi. C'est ça, pour faire tout ça de sacrifice. Et puis, quand t'arrives là, on te dit, non, toi, tu vas pas. tous les autres pour lesquels tu as voulu, tu as crié pour que je les sauve, et au final,
Non, c'est leurs enfants qui y vont. Eux, ils ne sont pas partis quand même, mais c'est leurs enfants qui sont entrés. Moïse lui-même n'est pas entré, mais c'est encore beau que Moïse ne soit pas entré. Ça montre le cœur de Moïse, quelqu'un qui a donné sa vie pour les autres. Quoi. Voilà. Sans intérêt, oui, mais ça, c'est... Mais ça ne fait qu'élever Moïse. Voilà. Le fait qu'il ne soit lui-même pas entré, ça montre que voilà le vrai serviteur de Dieu qui travaille d'une manière désintéressée. Ce n'est pas comme on entend aujourd'hui. Toi aussi, tu auras des Mercedes. Oh, tout ça, c'est des... Voilà, moi je dis qu'aujourd'hui, c'est vrai que Dieu a bien fait de nous limiter en puissance. Parce que si on avait des puissances comme un ange, on taperait des gens physiquement à distance. Donc tu... Parce que quand... De telles fausses prédications, bon, toi aussi tu auras des grandes maisons. C'est zéro. Voilà le serviteur de Dieu lui-même, il sert le peuple et lui-même n'entre pas dans cette terre promise-là. Mais il fait ce qu'il faut pour que le peuple entre. Oui? Mais c'est qui doit parler là?
Oui, j'avais une question. Du coup, est-ce qu'on peut dire que le salut des autres dépend de nous, dans le sens où plus on sera persévérant, plus on montrera la détermination à Dieu et plus les gens seront sauvés?
C'est compliqué à dire, hein, puisque le maître de la moisson, c'est Dieu lui-même. Ce qu'on peut dire, c'est quoi? C'est que si par nous, Dieu voulait sauver 10 000 personnes, ben, pour accomplir ces desseins-là, ça demandera notre persévérance. Maintenant, ça ne veut pas dire que ces 10 000-là ne seront pas sauvés. Ça veut dire tout simplement que par nous, ça ne s'accomplira plus. Mais ça peut s'accomplir par quelqu'un d'autre. Voilà. Mais nous, on ne doit pas réfléchir comme ça en disant, bon, même si moi, ça ne s'accomplit pas par moi, ça va s'accomplir par quelqu'un d'autre. On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que chacun de nous a une capacité spirituelle que Dieu a déposée dans son cœur d'intercession et d'évangélisation qui est la porte de salut pour beaucoup de personnes. Maintenant, il faut qu'on prenne nos responsabilités, mais nous ne nous disons pas, bon, de toute façon, si moi je ne le fais pas, Dieu est le maître de la moisson, il utilisera quelqu'un d'autre. Non, toi fais ce que tu as à faire pour que le maximum soit sauvé, que tu les vois de tes yeux. Oui.
Et parce que des fois, face au niveau élevé en fait, du mal qu'on peut avoir, que les gens ont, que ce soit notre entourage ou même les personnes qui ne sont pas forcément sauvées, on est nous-mêmes amenés, c'est trop fort, on est nous-mêmes amenés à être découragés en quelque sorte, parce que des fois on va prier, puis on va voir la personne s'éteindre sans forcément être sauvée. Où on va prier, se sacrifier dans la prière et on ne voit pas forcément le changement. Alors des fois, on
oui,
peut dire...
mais le fait qu'on prie ne doit pas fermer la porte à toute la vérité. Parce que la vérité, c'est aussi qu'il y a des gens qui iront en enfer. Donc il faut que quand on prie, on soit passionné, c'est vrai, on aime les gens. Mais lorsque Dieu nous répond aussi, qu'on soit prêt à accepter sa réponse. Non, mais il y a le Larsen là. Qu'on soit prêt à accepter sa réponse comme Jésus lui-même. Dans Matthieu 23, il explique clairement que les pharisiens sont les serviteurs du diable. Et dans Jean 8, il explique clairement, il dit que votre père, c'est le diable. Donc du moment qu'ils sont des fils du diable, Jésus n'a pas pensé que les pharisiens puissent être sauvés d'une manière quelconque. Il savait que c'était des gens qui étaient liés au diable à jamais. À jamais.
Voilà. Mais dernière chose, par exemple, par rapport au verset qui dit « Crois et tu seras sauvé, toi et ta famille ». Tu vas prier, et puis en fin de compte, tu vas voir qu'il n'y a pas forcément de conversion. Alors, est-ce que ça veut dire que ce verset-là, il est bon? C'est vrai que j'ai ma réponse. Je sais que ce verset n'est pas faux. Je sais qu'il est vrai, mais pourquoi du coup ça ne s'accomplit pas?
Non, ça s'accomplit. Comment on peut savoir que ça ne s'accomplit pas? On le saura définitivement au ciel, parce qu'il y a des choses qui peuvent venir après notre mort. Il y a des choses qui peuvent venir dans 20 ans. Voilà, donc je ne comprends pas que quelqu'un qui n'a pas plus de 30 ans disent que ça ne s'accomplit pas. Voilà. Mais il y a aussi le fait que, bon, Dieu ne peut pas imposer le salut, il met toutes les conditions pour le salut d'une personne.
Oui. En fait, je voudrais encourager les frères et sœurs en disant qu'en fait, la prière est efficace. Nous, on a à parler du Seigneur, à prier et à remettre cette personne entre les mains de Dieu. Alors, si ça plaît à Dieu que ce soit nous, il passe à travers nous pour amener la personne à lui. Alléluia. Mais ce n'est pas le but, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de repentance. Le Seigneur, en vérité, il n'a pas besoin de nous pour convaincre, pour amener les gens. Mais il nous fait un privilège dans l'amour parce qu'il nous fait voir que, en fait, c'est un privilège de le servir. Et en parlant aux gens, en priant pour eux et en laissant entre ses mains et en temps et en heure que lui a décidé, les choses se font. Alors, peut-être que tes yeux le verront, peut-être que tes yeux ne le verront pas. Mais ça, ce n'est pas un problème. Parce que toi, tu as donné cette graine. Et en temps et en heure, Dieu la fera réagir et la fera grandir. Et comme le frère le dit là, c'est vrai, peut-être qu'un jour tu verras tous ces gens, tu diras, mais attends, toi t'es là, mais t'as pas voulu, bon, voilà, et c'est ça qui est formidable. Enfin, voilà.
Ok, gloire à Dieu. D'accord, donc oui, Trésor.
Oui, pasteur, je veux que tu m'éclaires un peu sur... J'ai une idée, mais je n'arrive pas à le placer. Si je prends l'exemple de Moïse, on a vu qu'à plusieurs reprises, Dieu prenait des positions par rapport au peuple d'Israël et tout. Mais il arrivait à discuter avec Dieu jusqu'à aller même au niveau de se sacrifier pour ce peuple. Mais quand on voit l'exemple de Samuel... Quand Samuel a cherché à intervenir pour Saül, mais la position de Dieu était vraiment catégorique. Maintenant, moi, par rapport à cet exemple-là, les deux, je n'arrive pas à me placer. Comment être à limite par rapport au placement de l'intercesseur devant ça, quoi.
Oui, moi je lirai la. Ma réponse à ce que je viens de dire à Christelle ou bien à quelqu'un là, en disant qu'il faut qu'on soit prêt à écouter aussi la position de Dieu et à l'accepter. Donc le Seigneur a déjà dit à Samuel quelle était sa position finale. Mais c'est Samuel qui insistait. Et Dieu lui a dit, mais non, c'est ma position finale. C'est comme je parle des pharisiens. Le Seigneur Jésus n'a jamais prié pour que les pharisiens soient sauvés. Donc, il a dit clairement que c'était des fils du diable. Voilà. Votre père, c'est le diable. Ce n'est pas ce que Jésus a pensé du peuple juif. Il a pensé cela des pharisiens, des gens qui l'interrogeaient, qui cherchaient à le piéger. Il a dit, votre père, c'est le diable. Voilà. Et vous faites les œuvres de votre père. Donc et vous êtes des aveugles, des bons, des aveugles qui amènent d'autres aveugles dans le trou. Donc Jésus l'a dit clairement. Donc on doit être prêt à accepter la réponse que Dieu donne pour et comprendre ce qu'il veut. Et là, Moïse était dans une logique de Dieu a dit et Dieu ne veut plus accomplir ce qu'il a dit. Là, il y a un problème. Là, c'est l'honneur de Dieu qui en prend un coup. La fierté de Dieu qui en prend un coup. Sa fidélité qui en prend un coup. Mais Samuel n'était pas dans cette logique-là. Samuel, Dieu lui dit que je prends un autre roi. selon mon cœur. Parce que cet homme n'est pas selon mon cœur. Et lui, en quelque sorte, il était. Samuel, je le compare beaucoup plus à Zacharie, avec Marie. Ils ont eu le même problème, donc on t'annonce un enfantement spécial. Et Marie, quand elle dit, mais comment ça va se faire? Marie cherchait à savoir comment, puisqu'elle était vierge, donc elle veut savoir comment ça va se passer. Alors que Zacharie, lui, il a contesté. Il a dit, oh, mais non, c'est pas possible. Ah, c'est pas la même chose. Ils ont vu, apparemment, ça paraît être des mêmes réactions, mais c'est pas la même chose. Alors, et Samuel, lui, Il n'a pas accepté ce que Dieu a décidé de son propre, dans sa propre souveraineté. Alors que Moïse a entendu Dieu s'exprimer dans sa colère en voulant attaquer Dieu lui-même en quelque sorte, en voulant attaquer sa parole. Là, c'est, mais là, c'est, pour Saül, ce n'était pas le cas. C'est Saül qui était visé. Plus lui. Je continue avec Israël, mais avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est Saül lui-même, personnellement, qui était visé là. Ce n'est pas la même chose. Oui.
Je trouve que c'est encourageant de... Enfin, pour moi, c'est encourageant de voir comment Dieu a répondu à Moïse à travers cette identification. Et parce qu'en fait, Dieu, il avait une relation avec Moïse, donc ça prouve vraiment cette relation qu'on peut avoir avec Dieu, qui fait que il était peut-être à un certain niveau à ce moment-là où Dieu a peut-être exaucé finalement, bien que Dieu savait déjà qu'il y aurait peu qui rentreraient dans la terre promise, enfin que ce seraient les enfants et que Moïse, lui, il la verrait juste, mais qu'il n'y rentrerait pas. Donc, moi, je trouve ça encourageant de voir que Dieu, finalement, répond quand même, qu'il y a une conversation, qu'il y a quelque chose, c'est une relation, en fait. Même si ça, finalement, c'est pas vraiment exaucé, puisqu'ils ne rentrent pas tous dans la terre promise et que Moïse n'y rentre pas.
Si, c'est exaucé, parce que ce que Moïse demande, c'est que Dieu soit avec eux. Si ça est exaucé, Dieu est avec eux. Voilà, Moïse dit, ne nous lâche pas. Parce que Dieu dit, bon, pas de problème, je vous donne la terre promise, mais moi, pas, je ne serai plus avec vous. Donc, vous n'êtes plus mon peuple, sauf toi. Moïse dit, non, il faut, ne nous lâche pas, sois toujours notre Dieu. Ne nous quitte pas. Et jusqu'au bout, le Seigneur est avec eux et a accepté de vivre avec des hommes compliqués. Il a accepté à cause de Moïse. Et Dieu le dit tout le temps dans des versets de la Bible, à cause de mon serviteur David. Dieu aussi n'oublie pas. Hein, il rappelle aux Juifs, quand vous lisez la Bible, c'est tout le temps ça, hein, à cause de mes serviteurs, à cause de vos pères, à cause de Moïse, à cause de David. C'est pourquoi aujourd'hui je suis lié à vous. Parce que c'est des gens qui ont été vraiment liés à moi. Là, on voit un lien entre Dieu et Moïse. C'est un lien très fort. On voit que ça que dans des gens comme les Paul. Et voilà quoi.
Pasteur, je n'arrive pas à comprendre parce que tu dis les enfants, ils étaient sauvés, ils étaient entrés dans la terre promise.
Oui, oui, tous ceux qui ont été de l'époque de Moïse ne sont pas entrés dans la terre promise, sauf deux personnes.
Bah oui, je sais, c'est
Josué et Caleb. Mais c'est leurs enfants qui sont entrés dans la terre promise.
Les enfants, ils étaient vivants à l'époque ou bien, je ne comprends pas parce que dans la Bible, c'est marqué que Josué et Caleb...
Non, mais ils sont nés dans le désert. Ah. Ils ont fait 40 ans dans le désert. Ok. Donc, voilà un peu le niveau de qualité d'intercesseur de Moïse. Sans pour autant perdre la notion de vérité. Donc on a vu comment il a manifesté une sévérité extrême en disant même que chacun tue les membres de sa famille. Donc il ne perdait pas la notion de vérité en intercédant. Voilà, c'est faut pas qu'on... Il n'y a pas de compromis. Alors qu'avec Samuel, il y a un compromis. Il défend quelqu'un parce qu'il aime la personne. Mais Moïse, lui, il défend la vérité, il défend la parole de Dieu. Oui, Christelle, c'est un peu cela la différence. Donc Moïse reste ferme côté vérité parce qu'il est prêt à ce que les gens tuent même les membres de leur famille. Mais de l'autre côté, il dit Dieu reste notre Dieu, reste le Dieu de notre peuple. Oui.
Finalement, on est tous, en tant que chrétiens, appelés à avoir cette qualité d'intercesseur.
Ben oui. Ben oui. Parce que nous, à la différence de l'Ancien Testament, nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui fait de nous des enfants de Dieu. Donc une nature semblable à celle de Dieu. Parce que ce que Moïse manifeste là, c'est comme si c'était Dieu lui-même. Hein? Voilà. C'est... Mais maintenant, nous, on a ce titre-là d'enfant de Dieu. Donc, cette nature-là, normalement, on devrait être meilleur que Moïse. Voilà. Parce que nous, on a directement cette nature-là d'enfant de Dieu le jour où on s'est converti. Donc, on devrait épouser la cause du Seigneur au minimum comme Moïse. Au minimum.
Parce que tout à l'heure, tu avais parlé de c'est ça, enfin, ceux qui sont évangélistes. Ou...
Mais parce qu'ils ont fait leur preuve.
Mais on est tous appelés, du moins.
Mais oui, mais on est tous, on ne fait pas ces preuves-là. Donc on parle de ceux-là qui nous étonnent parfois par leur consécration à sauver les âmes, qu'on appelle évangélistes. Mais j'ai expliqué qu'est-ce qui animait leur cœur. Donc ils avaient la même animation que Moïse. Voilà, c'est la même animation. Mais nous, en tant que chrétiens, nous sommes tous appelés à ça. Nous sommes appelés à ça. Il y en a qui vont conduire le camion, qui vont amener le matériel, mais ils conduisent avec le même esprit que celui qui va prêcher, que celui qui va chanter. Voilà, c'est le même esprit qui doit nous animer, le même cœur que Moïse. Voilà, c'est cela, puisque nous avons plutôt la grâce d'être enfants de Dieu. Mais cet épisode nous révèle l'attachement de Moïse à Dieu et la connaissance de Dieu que Moïse avait, une grande connaissance de Dieu, à tel point que, bon, quand il y avait discussion, c'est Moïse qui sortait vainqueur. Et il y a un autre qui est sorti vainqueur de la confrontation avec Dieu. C'est qui? Jacob, voilà. Le nom d'Israël vient de là. Donc il s'est confronté à Dieu, il a gagné. Oui. Donc c'est... Et là, Moïse, deux confrontations avec Dieu, c'est lui qui gagne. C'est extraordinaire, hein? Oui.
Mais moi, quand même, ça me trouble qu'on peut être en confrontation comme ça avec Dieu. Pour moi, Dieu est... Voilà, il est... comment dire? Il est souverain, il est suprême. On ne peut pas être là, parlementer avec Dieu. Je ne sais pas si ça se dit.
Mais c'est une bonne confrontation. C'est une confrontation de foi.
Oui, mais bon, je ne sais pas.
Ce n'est pas une opposition. Voilà.
Par exemple.
C'est un combat avec lui. Mais, et ce n'est pas contre lui. Parce qu'on dit de Jacob, il a combattu avec Dieu et il a été trouvé vainqueur. Voilà. Ce n'est pas contre Dieu, mais avec Dieu. Et celui qui te donne la puissance de combattre avec Dieu, c'est Dieu lui-même encore. Et Moïse a été trouvé vainqueur. À deux reprises, là, on vient de lire, comme son prédécesseur Jacob. Ok. Nous continuons au verset, on était au chapitre 34. Donc finalement, on a lu que Dieu a accepté de continuer. Donc, on était plutôt au chapitre 33, d'exaucer. Il a exaucé la prière de Moïse. Et puis au verset 18, Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Ça nous rappelle quel chant? Ça nous rappelle quel chant, ce parti qu'on vient de lire? Lorsque tu passeras parmi nous. le chant que tes lieux soient visités. Garde-nous au creux du rocher lorsque tu passeras. Voilà, c'est puisé de ce passage-là. Donc, il ne faut pas chanter. Mais il y a beaucoup de liens avec les versets de la Bible dans nos chants que nous chantons. Donc, c'est, Dieu, il nous met d'abord dans le creux du rocher parce que si on le voit totalement, on ne peut pas vivre, on meurt. Et donc, il nous couvre dans le creux du rocher et il fait passer sa gloire. Voilà, nous allons, puisque la suite d'Exode, c'est quoi? C'est la construction du tabernacle. Donc, nous attaquons Nombre 11, si nous voulons continuer à parler des épisodes concernant la vie de Moïse. Nombre 11, et on va clôturer avec ça, avec les trois premiers versets. Le peuple murmura, et cela déplut à Dieu, à l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabera parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Voilà. Le rôle de l'intercesseur, c'est d'arrêter la destruction de Dieu. Donc, le peuple crie à Moïse, Moïse crie à Dieu et Dieu arrête. Bien-aimé, c'est une réalité. Lorsque on est ami de Dieu, Dieu nous écoute. Voilà. Il nous écoute. Et lorsqu'on n'est pas ami, c'est écrit dans Jean 9, 31, c'est l'aveugle qui dit aux pharisiens, « Oh, mais !» qui accuse Jésus d'être un faux. L'aveugle leur dit, mais la parole nous montre que Dieu n'exauce pas ceux qui ne font pas sa volonté. Hein. Dieu exauce seulement ceux qui font sa volonté. Alors, là, il s'énerve contre cet ancien aveugle. Et là, Moïse, le feu a pris, parce que le peuple a murmuré contre Dieu. Et Moïse, quand il parle à Dieu, Dieu arrête le feu. Vous savez, le but, ce n'est pas d'élever des humains. Mais le but de tout ceci, c'est de comprendre comment Dieu fonctionne. C'est très important. Dieu ne donne sa gloire à personne. Mais Dieu a un fonctionnement. Il écoute ses amis, il écoute les gens qui vivent pour lui. Et si on en a, le pays est sauvé. Si on en a, le groupe est sauvé. Mais si on n'en a pas, tout ce que nous faisons va tomber. Nous devons prier pour qu'au milieu de nous, il y ait des justes. Il y ait des gens qui soient amis de Dieu. Ces gens-là, quand ils vont demander quelque chose à Dieu, Dieu va faire, Dieu va donner. Parce que c'est des amis de Dieu. Déjà, ils vont demander que ce qui est bien. Ils vont demander selon la volonté de Dieu. Et quand on a des amis de Dieu quelque part, on a aussi le salut. Vous savez, même en Irak, pendant la guerre, il y a un légionnaire français qui s'était converti avant et il était parti en Irak et il était connu dans le milieu français comme étant un chrétien qui prie sérieusement. Et les gens savaient que si on est en mission, j'ai oublié son nom, il y a son témoignage sur Internet, c'est un Marocain ou un Algérien d'origine. Les gens savaient que si on est en mission, en hélicoptère, avec le monsieur-là, on reviendra sain et sauf. Sans que ça soit des convertis, des chrétiens, mais ils savaient que tant que je suis dans la même mission que cet homme-là, pas de problème. Rien ne nous arrivera parce que c'est un ami de Dieu. Il aime Dieu et c'est ce qui s'est passé. Donc quand il était dans une mission, ils revenaient tous sains et saufs. Rappelons-nous du navire de Paul, l'ange a dit à Paul, je t'ai donné tous ces gens. tant qu'ils écouteront ce que tu dis, ben, personne ne perdra sa vie. Et là, nous voyons Moïse jouer ce rôle-là d'intercesseur. Mais pour que Dieu t'écoute comme ça, il faut que tu sois son ami. Il faut que tu sois quelqu'un qui partage sa vision, qui partage sa façon de fonctionner, qui partage son amour pour les autres, qui partage sa logique. Si tu ne partages pas la logique de Dieu, il ne t'écoute pas. C'est ce qui fait que quand Moïse parle, Dieu arrête. Parce que c'est un ami de Dieu et Dieu va le dire encore plus tard avec Moïse, parler face à face. Oui.
Moi, j'ai une question par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Quelqu'un qui est clairement dans le péché, voilà, qui dit qu'il a donné sa vie à Jésus, mais qui est clairement dans le péché et qui ne cherche pas à mettre sa vie en règle, mais qui dit que quand il prie, Dieu l'écoute. Moi, pour ma part, je ne pense pas que Dieu peut écouter le pécheur.
Mais c'est écrit dans Jean 9, 31.
Mais qu'est-ce qu'on peut lui dire à cette personne?
Jean 9, 31.
D'accord.
Mmh. Oui.
En tout cas, moi, par rapport à ce qui a été dit là, et quand je reprends un peu Joseph, Moïse, et ce que tu as dit sur Paul, et puis ce que tu as dit, je me dis, on réalise davantage pourquoi Jésus est venu, parce que Jésus, c'est Dieu sauve. Et on voit que dans tout ça, Dieu veut sauver, il veut sauver, quoi. Et c'est vrai que c'est vrai, c'est le but de Dieu, c'est sauver, c'est ça qu'il veut en fait. Parce que même là, dans Joseph, comme on avait vu à la fin, quand il a dit à ses frères que le but de tout ça était pour qu'il soit sauvé. Et là, dans Moïse aussi, on voit que c'est au travers de ce sacrificateur-là, le but aussi, c'était que le peuple soit sauvé. C'est
et on voit, ça, on voit. Et ça confirme, quoi. Donc, il est sort d'Égypte.
Voilà, c'est vraiment Jésus.
Il fait sortir l'eau quand il n'y a pas l'eau. Quand Dieu veut détruire, il dit ne détruis pas, il ne détruit pas. C'est vraiment, il a suscité cet homme pour le sauver tout le reste. Effectivement, c'est ça. Il manifeste vraiment le salut de l'Éternel. Voilà, que Dieu soit béni. C'est ce à quoi nous tous nous sommes appelés. Mais ce n'est pas à bavarder comme le font Noémie, Assia, Déborah. Nous sommes appelés à prier Dieu et sauver les autres. Que Dieu soit béni, prions. Éternel, grand Dieu, nous te remercions pour ta fidélité, ton amour et ta bienveillance. Vraiment, merci pour Moïse, qui est un exemple terrible pour nous, un exemple extraordinaire, encourageant, parce que personne ne va nous dire que Moïse est né sans père. On sait qu'il est né d'un homme, d'une femme comme nous, Seigneur. Ça rejoint ce qui est dit d'Élie, qu'il était un homme comme nous. Moïse était un homme comme nous, mais il t'a choisi, un point c'est tout. Aide-nous à te choisir, à être ton ami, Seigneur, à vivre que pour toi, au nom de Jésus, afin que nous soyons la source de salut pour beaucoup d'autres. À toi la gloire, la louange, pour ce que tu vas faire en nous communiquant la véritable foi en toi, au nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse.